France Culture.
La recherche du temps perdu, c'est un peu comme une forteresse, au moins dans l'imagination des gens. Parce qu'il y a une telle glose, il y a un tel discours qui entoure la recherche que ça devient un objet très intimidant. Anatole France disait « La vie est trop courte et la recherche du temps perdu est trop longue ». Moi, je trouve que la vie est longue et que la recherche du temps perdu est trop courte, mais bon.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Au moins trois fois Proust aujourd'hui au programme de votre book club. Dans son nouveau livre, Catherine Cusset raconte comment elle a lu à la recherche du temps perdu à 15 ans, en y trouvant le reflet infini de ses chagrins amoureux, puis relu plus tard en y savourant alors le regard ironique et lucide de l'auteur sur la société, et comment enfin elle y aperçut, rendue à la cinquantaine, toute l'aventure contenue dans une seule phrase et l'intensité d'une vie consacrée à l'écriture. « Ma vie avec Marcel Proust », c'est le titre de ce nouvel ouvrage et Catherine Cusset est notre invitée. Vers 15h50, comme chaque mardi, la journaliste Nicole Vulser éclaire pour nous un aspect économique du monde des livres. Une fois n'est pas coutume, une bonne nouvelle de la part de Nicole, le marché de la poésie se porte bien. Et en fin d'émission, nous jouons à chercher trouver de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. Nous voilà ensemble pour une heure, un temps retrouvé. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Catherine Cusset.
Bonjour Marie.
Ma vie avec Marcel Proust a paru aux éditions Gallimard. Ce sera le cœur de notre conversation dans un instant. Mais ici, tout commence au Book Club par un portrait de nos invités en tant que lectrices et lecteurs. Alors c'est un peu particulier avec vous aujourd'hui parce que votre livre en tant que tel, et on y viendra tout à l'heure, c'est un portrait en creux de vous en tant que lectrice et en tant que plein d'autres choses. Mais on va s'éloigner un peu de Marcel Proust dans ce premier temps d'émission. Sinon quand même à commencer par un souvenirs que vous racontez dans votre livre, Catherine Cusset. Vous devez garder des enfants, vous êtes dans un petit square et vous êtes tellement absorbée par la lecture qu'une des enfants chute et s'ouvre à la bouche et doit avoir des points de suture et ça vous vaut de la part de la famille une interdiction d'emporter un livre avec vous quand vous êtes chargée de garder les enfants. Est-ce que ça dit, cet épisode-là que vous racontez dans votre livre, quelque chose de votre rapport à la lecture depuis le début, Catherine Cusset, c'est-à-dire quelque chose qui vous absorbe?
Bon, déjà, je précise, c'était pas un square, mais une grande plage déserte.
Ah oui, j'avais oublié. Ah oui,
pourquoi je le dis parce que sinon, on va vraiment penser que j'étais une horrible.
Je me suis figurée un
au père. Vous imaginez dans un square, mais n'importe qui pourrait enlever votre enfant, ça serait la catastrophe.
Alors que la famille là, vous dit quand vous allez à la plage, voilà, vous n'emportez plus.
C'était cette grande plage déserte en Normandie. Je vous jure qu'il n'y avait aucun risque.
Hein, j'ai transposé à mes propres angoisses, je pense.
Voilà. Alors, bon, la lecture, absolument. Je pense qu'elle me définit comme enfant et comme adolescente. J'ai adoré lire. Très très tôt, enfin dès que j'ai su lire, je pense à 6 ans et demi, j'ai commencé à 6 ans, je sais plus, j'ai commencé à lire des livres. J'ai commencé par Oui à l'école, qui a été le cadeau de mon premier Noël quand je savais lire.
Et puis vous vous en souvenez donc?
Oui, je me souviens. Je me souviens d'ouvrir le paquet, de voir Oui, de déchiffrer Oui à l'école et d'être hyper contente. Et puis j'ai lu tout ce que j'ai trouvé sur les rayons de bibliothèque. J'avais une mère pour qui la lecture était très très importante. Et je pense que la lecture, bon, j'ai aimé la lecture, mais je crois que j'ai aussi gagné, j'ai cherché à gagner par la lecture l'amour de ma mère.
Et je me Pourquoi suis dit... c'était important pour elle?
Alors, je pense.
Ou en quel terme c'était important pour elle?
Elle aussi adorait lire et elle aurait voulu faire des études littéraires qu'elle n'a pas faites pour des tas de raisons que je n'expliquerai pas ici. Elle a fait du droit, elle est devenue avocate, elle est devenue juge, mais la littérature était essentielle pour elle. Or, ma sœur aînée, qui avait 3 ans et demi de plus que moi, était une petite fille, un garçon manqué, une petite fille sportive qui détestait lire. Et tout de suite, ça a été un peu la confrontation entre ma sœur et ma mère. Et moi, je suis arrivée, j'étais la petite fille modèle qui adorait lire. C'était un baume pour le cœur de ma mère de voir cette petite fille qui lisait, qui grandissait, qui disait de plus en plus, qui adorait tout ce qu'elle aimait. Elle me donnait, je ne sais pas à quel moment, elle m'a donné Belle du Seigneur. J'avais peut-être 8 ou 9 ans, j'exagère peut-être un peu. Mais j'ai tout adoré.
Mais comment vous compreniez que c'était essentiel pour elle? C'est-à-dire que vous dites ça comme une évidence, Catherine Cusset, mais comment une enfant comprend que pour sa mère, les livres sont essentiels.
Alors déjà, bon, elle rentrait du travail, j'étais sur mon lit, je lisais « Ah, tu lis ». Il y avait une sorte de respect qui entourait la lecture.
J'étais ah, tu à lis, c'est bien, quoi,
oui,
sous-titre.
Oui, oui. J'étais à... et alors, tu en es où? Et tu aimes? Et j'étais à table, et au fromage, j'aimais pas le fromage. Bon, j'aimais le dessert, mais je disais, est-ce que je peux me lever et retourner lire? J'avais tout de suite le droit de pas desservir, de pas aider. J'avais... Si on lisait, on avait droit à tout, en fait. Mmh. C'était formidable. C'était vraiment une sorte de passe-droit. Et puis, il m'arrivait de ne pas faire ce que ma mère voulait. D'aller regarder la télévision chez ma grand-mère, nous n'avions pas la télévision, ou bien de trouver des bandes dessinées, j'adorais les bandes dessinées, et de les lire, et juste l'expression de la déception sur le visage de ma mère. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes la télé, tu lis une bande dessinée, ah bon, le dégoût sur son visage. Bon, j'ai décrit tout ça dans mon roman La haine de la famille. Hein, la lecture, ça a été le lien entre ma mère et moi, le lien d'amour entre ma mère et moi.
Est-ce que c'est resté ça? Est-ce qu'il n'y a eu que cette ces livres entre vous deux, ou est-ce qu'à un moment donné
il y a eu mieux après? Devinez ce qu'il y a eu après.
Il y a eu écrire
évidemment.
Il y a eu mieux qu'aimer votre mère en lisant des livres,
mais plus qu'à lire, lui donner des livres à lire qu'on avait fait nous. Même sur 4 enfants, on en a quand même 3 qui sont écrivains, hein, donc je pense que c'est pas mes deux frères Yves et François Cusset écrivent tous les deux, hein, donc, des romans, du théâtre, des essais, donc voilà, nous sommes 3 écrivains sur 4. Ma sœur s'y mettra aussi.
Ce qui raconte pas mal de choses, en effet, Catherine Cusset. Mais néanmoins, je repose cette question-là. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu l'impression, en dehors de l'écriture, de trouver un territoire de lecture pour vous qui ne soit plus seulement le territoire partagé de l'amour avec votre mère?
J'ai déjà l'entrée dans Dostoïevski. Je pense que là, pour le coup, c'était Balzac. Balzac a 12 ans. Par un téléfilm, la télé venait d'arriver chez nous et j'ai eu le droit de regarder Grandeur et misère des courtisanes à la télévision. Extraordinaire. Et là, je découvre Balzac, donc je me mets à lire tout de suite Les Illusions perdues et Grandeur et merde, et j'adore. Et je lis tout Balzac.
Et là, ça devient pour vous.
Et ça devient, enfin de toute façon, c'était quand même toujours pour moi la lecture. Hein. Mmh. Je lisais pour ma mère, je lisais parce que c'est développé en moi la passion de cette réalité alternative qui était tellement préférable à la vie que je vivais. Ensuite, ça a été un peu différent quand j'ai découvert Proust, parce que Proust, en fait, m'a permis de lire et de comprendre. Là, c'était pas une échappée, c'était me retrouver et comprendre la vie que je vivais, l'amour que j'éprouvais. Mais avant ça, je crois que les deux grandes découvertes, c'est Balzac et Dostoïevski.
Et après, si on vous suit dans votre vie de lectrice, alors Proust, on y reviendra, voilà, ce sera vraiment d'accord. Le grand sujet, puisque c'est le sujet de votre livre.
Après Proust, là vous me posez une colle, qu'est-ce que j'ai adoré après Proust?
Adoré ou pas, en tout cas des choses qui seraient marquantes dans votre vie de lectrice.
Bon, Les Liaisons dangereuses de Laclos a été vraiment une lecture marquante. J'y ai pas pensé, donc tout à coup
je vous parlais pas du tout de Sade.
Ah oui.
Sade. Non mais je sais pas, peut-être pas, mais bon.
Sade, c'est une découverte en fait qui est antérieure. Un jour, je sais pas pourquoi, je retire de la bibliothèque de mon père un livre qui s'appelle Justine ou les infortunes de la vertu. Je pense que j'ai 13 ou 14 ans.
C'est jeune.
Et oui, et je l'ouvre au hasard, et au hasard, je tombe sur une scène où il y a cette Justine qui se fait violer par 4 moines. Et qui éprouve du plaisir. C'est horrible à dire, mais j'ai senti un plaisir physique immédiat. Et je pensais, c'est incroyable alors, un livre qui vous donne du plaisir comme ça. C'était une découverte un peu stupéfiante que l'effet de l'écriture pouvait être physique, que l'écriture pouvait agir sur le corps avec cette immédiateté. Ça m'a vraiment interpellée. Et c'est pour ça qu'après, j'ai décidé de faire ma thèse sur ça, pour réfléchir à cette question. Comment est-ce que l'écriture peut vous toucher physiquement? Et d'ailleurs, Proust en parle aussi, d'une autre façon. Hein, comment l'écriture, comment les mots écrits par la bien-aimée peuvent vous toucher physiquement, vous donner une douleur physique. Mmh. Le rapport entre les mots et le physique est tout à fait intéressant.
Est-ce qu'il y a des livres sur votre table de chevet, Catherine Cusset?
Énormément. Il y en a, je ne sais pas. Presque une dizaine.
Ont-ils un statut particulier, ceux-là?
Alors non, c'est pas qu'ils changent. J'ai des piles, en fait. J'ai des piles de livres. Parce que le plus grand désespoir pour moi, ça serait de me retrouver, non pas sans un livre à lire, parce qu'il y a toujours des livres à lire, mais sans un livre que j'aime. C'est vraiment le besoin de lire. J'en mettais même, vous savez, quand j'étais à un moment adolescente, j'en mettais dans les toilettes. Et je sais pas, j'avais une espèce de fantasme bizarre, parce que ma mère était absolument, enfin, passionnée, fascinée. Bon, elle a grandi juive pendant la guerre, et donc j'ai énormément entendu parler, évidemment, de la guerre et de la Shoah à la maison. Et j'avais mis des livres dans les toilettes, mais si jamais je sais pas qui débarque, les Allemands, et que je me cache dans les toilettes et que je m'enferme, j'ai des livres à lire. Donc il fallait absolument prendre le métro aujourd'hui. En général, je suis sur mon vélo, hein. Mais prendre le métro et tout à coup m'apercevoir que j'ai oublié mon livre à
la
maison.
Vous êtes sans ressources.
Et que j'ai pas de livre. Mais c'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc oui, j'ai beaucoup de livres. Je lis.
Et c'est souvent que vous trouvez des livres que vous aimez?
Non, c'est pas. Je dois avouer
que
c'est pas
quand
souvent.
Même rare.
Et je lis beaucoup de livres à la fois parce que j'ai aussi un book club en Amérique avec mes amis américains. Donc je lis beaucoup en anglais aussi. Et nous alternons dans ce book club un classique et un roman contemporain, toujours en anglais. Et ce qui est intéressant...
Attendez, vous nous intéressez quand même. Ça ressemble à quoi votre book club en Amérique? C'est quoi book club en Amérique? D'un seul coup, il y a quelque chose qui s'ouvre pour nous, qui est une autre dimension.
Avec un groupe d'amis, et c'est fantastique, parce que le nombre d'auteurs que j'ai découvert... Alors là, à nouveau, j'aurais dû préparer, parce que je ne vais pas me rappeler les noms, mais des auteurs que je ne connaissais pas... Oh là là, c'est horrible.
Mais c'est pas grave, c'est votre enthousiasme qui compte.
Tout à coup son nom m'échappe, c'est terrible. Celui qui a écrit Deacon King Kong et The Color of Water, la couleur de l'eau, c'est un auteur extraordinaire, donc retrouvez-le.
On va le retrouver,
par les titres, je suis désolée que la mémoire me fasse défaut au mauvais moment, mais beaucoup d'auteurs comme ça que j'ai découvert par ce book club, on discute pendant deux
James
heures.
James McBride,
merci. Et vraiment, donc voilà, d'autres auteurs. Et c'est à découvrir un auteur que j'aime, mais quel bonheur, quoi. Quel bonheur. Voilà.
Renouveler. À chaque fois renouveler.
Oui, voyez. Souvent, on n'a pas l'idée, on ne sait pas où aller. C'est difficile. C'est ça le plus difficile dans la lecture. C'est de D'abord, on a tous des goûts différents, hein, il faut bien le dire. Mais ce qui est fascinant dans le book club, c'est que les classiques, on a tendance à tous les aimer. Les romans contemporains, c'est beaucoup plus divisé.
Parce que le temps a passé sur les classiques et fait le tri.
Voilà, exactement.
Déjà. Est-ce que vous avez un horizon? Il est tellement question de désir dans votre livre, Catherine Cusset. Est-ce qu'il y a comme ça l'œuvre d'une autrice ou d'un auteur qui vous fait de l'œil pour plus tard? Vous vous dites, un jour, je lirai ça.
Écoutez, on fait des aveux toujours comme ça. Vous savez, les jambes de gens qui maintenant vont me dire, je n'ai jamais lu Marcel Proust. C'est
moi.
Certain, hein, puisque c'est voilà, vous-même.
Moi,
c'est...
je peux le dire.
Alors moi, j'ai jamais lu...
En entier, je veux dire.
J'ai jamais lu Ulysse de Joyce. C'est un petit peu une sorte de complexe, on comprend très bien qu'on puisse se sentir...
Oh non, mais c'est pas possible, vous pouvez pas dire ça, ça suffit de dire ça.
Mais
des curieuse. Complexes auprès de qui?
Mais je suis sûre que c'était...
Qui peut vous en vouloir de pas avoir lu Ulysse de James
Moi-même,
Joyce?
Moi-même, parce que je pense que c'est très bien. Et que simplement, parfois il y a un effort à faire pour rentrer dans un livre. Je l'ai découvert avec Balzac à 12 ans. La lecture, c'est pas toujours évident. Vous lisez Faulkner, que j'ai relu dans le book club. Vous savez, je crois que c'est Le Bruit et la Fureur qu'on a relu. Le début, mais qu'est-ce que c'était difficile.
Ouais.
C'est extraordinairement
mais qu'est-ce que c'est bien
difficile.
D'y arriver après.
Et quand vous arrivez à la fin, mais c'est... Je sais pas, quelque chose... Bon, c'est ce dont Proust parle dans La Recherche du Temps Perdu. Il y a une ouverture sur une autre réalité, sur un autre univers, sur le rapport au monde singulier d'un auteur, c'est quelque chose de beaucoup plus beau que ce que vous découvrez souvent dans la vie, en tout cas la vie quotidienne.
Donc un horizon pour James Joyce et Ulysse. On va parler de votre livre, Catherine Cusset, juste après ce morceau d'un artiste qui s'appelle Brume Parole. Il faisait paraître, à l'occasion du centenaire de la disparition de Marcel Proust, deux albums, un qui s'appelle Recherche Proust et un qui s'appelle Retrouve Proust. Et le morceau qu'on écoute s'appelle Hors de nous. Il reprend, comme tous les morceaux du disque, des fragments de À la recherche du temps perdu pour les mêler à la musique.
Les souvenirs d'amour ne font pas exception aux lois générales de la mémoire. Elle-même régie par les lois plus générales de l'habitude. Comme celle-ci affaiblit tout. Ce qui nous rappelle le mieux un être, c'est justement ce que nous avions oublié, parce que c'était insignifiant. Et que nous lui avons ainsi laissé toute sa force. La meilleure part de notre mémoire est hors de nous. Hors de nous. Hors de nous. Oh, no. nous, pour mieux dire, mais dérobés à nos propres regards, dans un oubli plus ou moins prolongé. C'est grâce à cet oubli seul que nous pouvons de temps à autre retrouver l'être que nous fûmes, nous placer vis-à-vis des choses comme cet être l'était. Souffrir à nouveau, parce que nous ne sommes plus nous, mais lui, et qu'il aimait ce qui nous est maintenant. Indifférent.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Trois fois à la recherche du temps perdu de Marcel Proust, aujourd'hui dans votre book club, une fois à 15 ans, une fois à 20 ans, une fois à 50. Trois âges de la vie pour trouver dans les milliers de pages qui composent l'œuvre cathédrale un chemin, toujours différent. En racontant votre vie avec Marcel Proust, bien plus qu'en tant que seule lectrice, Catherine Cusset, votre vie en compagnie de lui, en miroir de lui, vous dessinez une possible traversée de sa recherche, mais aussi ou surtout un autoportrait en creux de vous, toute singulière, en adolescente amoureuse, en femme, en amie, en amante, en mère, en écrivaine. Car c'est bien de cela dont il est question à la fin, de phrases et de temps pour les écrire et pour les lire. Un temps retrouvé, intérieur, essentiel et irréductible, nécessaire à l'éclaircissement de soi-même et des autres. Ma vie avec Marcel Proust, apparue aux éditions Gallimard, et on en parle maintenant avec vous. Vous écrivez au tout début de ce livre, Catherine Cusset, que vous vous trouvez comme le jeune Marcel Proust à Combray, n'étant plus capable, après avoir vu beaucoup de beauté, que de dire zut, 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 zut. Et que les milliers de pages qui viennent ensuite est une possibilité de déplier ce zut, 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 zut. Alors pourquoi est-ce que vous vous trouvez avec ces seules onomatopées dans la bouche pour commencer le livre ?
C'est bien difficile de dire son admiration et de dire son amour quand on aime un immense écrivain comme Marcel Proust et que qui regorge d'idées, de métaphores. Enfin, c'est vraiment difficile de le dire, d'expliquer pourquoi on l'aime tant.
Donc mais voilà, vous dites quoi, par où commencer, ou vous dites la tâche est trop grande, ou vous dites oui, ce sont des choses trop intérieures pour que je parvienne à les traduire.
Ben comment je vais déjà structurer un livre où j'explique pourquoi j'aime tellement Marcel Proust. J'ai vraiment senti ça, la difficulté extrême de rendre lisible mon admiration, mon amour, et d'écrire ce livre où en effet où je parle autant de moi que je parle de Proust. Alors en plus ça, j'avais une honte. Franchement, c'est pas très facile de parler de moi, parce que c'est le but du livre, hein, ma vie avec Marcel Proust, c'est un livre ma vie, c'est les mots viennent d'abord ma vie. Et donc parler de moi pendant que je parle de Proust, je trouvais que c'était quelque chose de un peu indécent. J'essayais de le dire aussi dans le livre.
Bien sûr.
Et que je ne me compare pas à Proust, mais avec ses personnages, ce qui est différent.
Et on voit dès le départ qu'au final, c'est ce miroir qu'il vous tend, c'est-à-dire c'est parce que le jeune Marcel a Combray lui-même et sans les mots devant la beauté que ça vous permet de vous penser, vous, sans les mots devant la beauté, et donc de vous mettre en route. L'idée, c'est pas tellement de dire « je suis comme Marcel Proust », mais qu'est-ce qu'il y a dans les phrases et dans le texte de Proust qui me permet de me penser moi-même. Vous passez votre temps à dire ça, Catherine Cusset, que la littérature, elle est aussi à cet endroit-là.
Oui, c'est ça. Et ce que j'ai essayé de déployer, c'est vraiment cette proximité avec Marcel Proust. Les œuvres que j'aime, c'est celles, c'est sans doute celles, enfin, c'est à la fois celles dans lesquelles je me retrouve, mais c'est surtout celles qui me donnent cette admiration extraordinaire pour la pensée, la vision du monde de l'auteur. J'ai l'impression, en fait, quand je lis Proust, et c'est à ça, je pense, que sert l'écriture, de voir sa pensée vivante, de voir quelqu'un de vivant. La grande écriture, elle transcende le temps. Vous assistez, vous voyez, ça peut être un siècle, des siècles après, vous voyez quelqu'un de vivant. Quand il vous fait rire, s'il vous fait rire, c'est qu'il est là, c'est qu'il est présent.
Donc il y a vraiment quelque chose, tout à l'heure vous disiez que vous aviez été frappé par ce que peuvent les mots sur le corps, donc il y a vraiment quelque chose de l'instant en fait, à chaque fois renouvelé, à chaque fois...
Oui, quelque chose qui reste dans le présent, tout le temps.
J'ai dit trois âges de la vie parce que c'est aussi comme ça que se compose ce que vous avez à nous raconter de votre lecture de À la recherche du temps perdu. J'ai dit aussi que vous proposiez à chaque fois un chemin différent, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire, c'est pas seulement à 15 ans, il n'y aurait que l'amour qui vous intéresse, à 20, que la lecture de la société, à 50, que l'écriture. Néanmoins, ce serait quoi? Ce serait la note principale de votre lecture, oui, à chaque fois?
Ah bah, je crois que de quand même, à 15 ans, pour le coup, c'est vraiment uniquement ça que j'ai lu. Hein. Et d'ailleurs, je me demande, est-ce que j'ai passé certaines parties plus, qui sont quand même difficiles, hein, il faut bien le dire. Est-ce que j'ai dû lire rapidement? J'avais appris avec Balzac. Hein. Balzac, il y a des descriptions très longues. J'avais appris à les passer. Avec Hugo aussi, j'avais appris à passer. Mais par contre, combien d'amour, hein. Ça commence évidemment avec le triangle de l'enfant, du père et de la mère, où je me suis complètement reconnue. Hein, la passion, l'amour fusionnel pour la mère et la distance bien plus grande avec le père qui est la voix de l'autorité, mais aussi quelque part de l'insensibilité, celui qui comprend rien.
Qui comprend et surtout puis, pas pourquoi est-ce que l'enfant attend le baiser pour enfin pouvoir rejoindre le sommeil.
Oui. Voilà. Et puis après, évidemment, tous les amours, l'amour du narrateur pour Gilberte, son amour pour Albertine à l'adolescence et après, l'amour de Swann. Enfin, il y a un nombre d'amours et c'est à chaque fois, Proust décrit le même amour. Hein, un amour impossible, toujours.
On va écouter un extrait de votre texte à vous qui va ouvrir justement tout ce que vous développez autour du sentiment amoureux, de l'impossible et du désir.
De la Bretagne où j'étais partie pour tout l'été, j'avais écrit à Ximena une lettre de 10 pages dans laquelle je déversais ma passion. Je l'aimais comme je n'avais jamais aimé personne, je le lui disais sur tous les tons. Pendant un mois, chaque jour, j'ai été suspendue au passage du facteur. Il a fini par me tendre une enveloppe sur laquelle j'ai reconnu la ferme écriture aux lettres rondes et musclées, aussi autoritaire que sa voix, qui ressuscitait sa présence et l'intensité de nos caresses. Je suis montée l'ouvrir au grenier, le cœur et la main tremblant. Elle contenait une carte postale représentant une église romane que Ximena était allée voir avec ses parents et ses petites sœurs. Au dos se trouvaient deux lignes, tracées de la même écriture ferme, que ma mémoire me restitue ainsi. Je vais bien, je mange bien, je digère bien, je dors bien et je t'en souhaite autant. Pas une allusion à ma lettre. Pas un mot indiquant qu'elle avait un sentiment pour moi et que je lui manquais. Cette phrase aurait pu s'adresser à n'importe qui. La souffrance m'a submergée. J'ai passé des heures à pleurer et tout un été en deuil. Cette carte était un désaveu. Ximena regrettait notre nuit, elle ne m'aimait pas, elle se moquait de moi. Elle trouvait ma ferveur ridicule et me jetait, pour l'éteindre, un jet d'eau glacée en pleine figure. Je digère bien, pourquoi pas je pète bien? Mon amour était sans réciprocité. Je ne lui ai plus écrit. À la rentrée, quand nous nous sommes retrouvés en classe, assises côte à côte comme l'année précédente, amies exclusives comme nous le serions encore pour les 6 années à venir, jusqu'à la rupture, à 20 ans, qui lui ferait si mal à elle, qui, je l'apprendrai plus tard, aimait les femmes. Nous n'avons pas dit un mot sur notre échange de l'été, ni jamais évoqué ce qui s'était passé entre nous avant les vacances, sujet tabou. Le corps était dorénavant interdit. Nous ne nous sommes plus jamais touchés, ni même effleurés. Et pourtant, Ximena m'aimait, et je l'aimais.
Un premier extrait de votre livre Catherine Cusset, Ma vie avec Marcel Proust. Tout au début de ce livre-là et pendant la première grande partie, vous racontez ce que vous comprenez de l'amour, du désir, de l'amour impossible, de l'attente, dans ou en miroir, en lisant À la recherche du temps perdu. Alors que nous apprend ce grand œuvre de Marcel Proust sur ce sentiment-là?
Bien, comme je le disais juste avant, que l'amour est une torture, que l'amour est impossible, que l'amour n'est qu'une souffrance. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et que l'amour est aussi également tout. Alors, pour la souffrance, là je vous venais de citer ce passage de mon roman, et c'est vrai que j'ai lu Proust l'été suivant, hein, donc pas au moment où j'ai vécu cette grande souffrance, de l'attente d'une lettre, mais je vais la découvrir ensuite chez Proust. Il n'y a que attente de quelqu'un qui ne viendra pas, attente d'un mot qui n'est pas écrit. Il ne cesse de t'écrire ces situations. Il dit aussi que l'amour est... tout à fait indépendant de la valeur de l'être aimé. Alors, c'est pas une idée nouvelle hein, en soi, parce qu'on sait, l'amour a toujours été représenté comme étant aveugle. Et on sait qu'il n'a pas de rapport avec, effectivement, la valeur ou la beauté. On trouve tous, on a tous une idée totalement subjective de la beauté. Et il donne l'exemple.
Vous allez même plus loin. Vous dites que c'est détaché de l'objet. Que d'une certaine manière, c'est détaché de l'objet.
Oui, ça a à voir avec ses propres névroses. Mais il y a encore une troisième étape à cette idée-là. Alors déjà, il parle de la femme dont, par exemple, est amoureuse Robert de Saint-Loup, qui est Rachel. Et Proust nous dit que cette Rachel, on la lui a offerte dans une maison de passe pour 20 francs, qu'il n'en a absolument pas voulu, mais que Robert de Saint-Loup, qui l'a découverte, qui l'a fait sa connaissance autrement, au théâtre, et qui, en la voyant jouer, a rêvé d'une femme inconnue, est tombé fou amoureux d'elle, et qui a aucun rapport. Tout dépend de la façon, finalement, dont on a connu une personne, et donc de la question, est-ce qu'on a pu projeter sur elle l'imaginaire et l'inconnu. Et ce que nous dit Proust, et là il va plus loin que la simple idée que l'amour est aveugle, c'est qu'en fait, peu importe d'ailleurs l'objet dont on est amoureux, peu importe, ce qui est important dans l'amour, c'est que c'est un état qui nous fait atteindre les parts les plus profondes de nous.
Il dit même que la souffrance amoureuse est le meilleur véhicule de la connaissance de soi-même, voire du monde.
Exactement. Donc en fait, en soi, c'est un état complètement désirable.
Ne soyez pas malheureux de souffrir, faites-en un temps de connaissance.
Et je dois avouer que je suis totalement d'accord avec ça, puisque j'ai toujours pensé qu'il y avait un lien entre souffrance et intelligence, et empathie et connaissance de l'autre.
Vous avez aussi des pages très nombreuses et très belles sur le désir, il ne faut plus vouloir pour avoir, il y a vraiment aussi toute une réflexion. Et ce qui est assez intéressant, Catherine Cusset, c'est que vous montrez les allers-retours entre une pensée vraiment théorique, enfin cortiquée, très développée, et la description du sentiment, la description du tourment, la description de l'intériorité, tout cela avance ensemble à la fois chez vous et dans votre lecture de Proust.
Oui, parce qu'il y a les deux chez Proust. Chez Proust, il y a d'abord ce que j'ai retrouvé qui était exactement la description de mes états amoureux. Quand Proust, enfant, je parle beaucoup de cet amour-là parce que c'est sans doute celui où je me suis le plus reconnue, quand il décrit son amour pour Gilberte, où il doit avoir à peu près l'âge que j'avais quand je l'ai lu, enfin un peu plus jeune peut-être, et qu'il rêve de rencontrer Madame Swann, que tout à coup, alors qu'il s'ennuie à dîner chez ses parents, et que tout à coup, sa mère dit qu'elle a rencontré Swann, mais il parle de cette fleur comme ça qui pousse au milieu d'un désert. C'est le mot qui l'intéresse. Et j'avais exactement, moi, ce sentiment-là. Quand je suis tombée amoureuse de ma prof de français à 15 ans, elle s'appelait Geneviève, c'était son prénom. Si tout à coup, j'entendais le nom de Geneviève, je ne voulais que prononcer ce nom-là. Donc il y a d'un côté, retrouver vraiment en miroir les sentiments que j'ai éprouvés. Mais ce qui est très intéressant chez Proust, c'est qu'il y a l'analyse aussi avec. Il y a l'analyse, il y a toute une théorie de la nature humaine. Et c'est vraiment... Proust n'est pas du tout un romantique. Il ne parle que d'amour, mais il n'est pas du tout un romantique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas un romantique? La façon dont il parle de l'amour, c'est en clinicien. Ouais. C'est une façon très... il analyse quelque chose qui est de l'ordre d'une maladie, en fait. Il parle d'un parasite... d'une bactérie.
Oui, il dit même que l'obstacle à notre amour, c'est nous-mêmes. Non, que l'obstacle à l'amour, c'est notre propre amour pour l'autre. Que c'est parce qu'on aime qu'on...
Ah, qu'on est l'obstacle, ouais. Mais c'est une évidence. Il y a que des phrases, des sentences. Il faut ne plus vouloir pour avoir. Il dit qu'il n'y a pas de stratégie possible en amour. Vous savez que vous ne devez pas écrire à la personne que vous aimez, que vous devez vous faire attendre. Et puis finalement, vous ne tenez plus au bout d'un moment et vous envoyez un message que vous pensez totalement neutre. Mais en fait, le désir se trahit toujours lui-même. C'est perdu d'avance, en fait. Donc ce que nous dit Proust, c'est que finalement, la seule façon d'arriver à se faire désirer, c'est de ne plus désirer soi-même. Et que de toute façon, quand on ne désire plus, on s'en moque.
Et on s'en fiche et c'est triste. Il dit, bien sûr.
Donc il n'y a pas de solution.
Bien sûr que c'est le temps et l'oubli qui va régler l'affaire. Voilà. Mais en même temps, quand vous aurez oublié, ça n'aura plus aucune saveur. Du coup, vous en ficherez même d'avoir oublié. Du coup, vraiment, tout est affiché à la poubelle. Heureusement qu'on a des pages à lire quand même.
Je pense que cette philosophie de l'amour vient aussi du fait que l'amour pour ce jeune homme homosexuel au début du XXe siècle était, et à la fin du XIXe était impossible.
Vous parlez d'ailleurs de l'immense courage qu'il a de l'écrire, de la manière voilà, dont il progresse dans sa propre vérité. C'est quelque chose qui vous a aussi beaucoup touché, Catherine Cusset, dans la lecture.
Oui, alors bon, il faut bien voir qu'il a transformé en une Albertine hein, les différents garçons dont il a été amoureux. Et lui, il raconte une histoire d'amour hétérosexuelle, sans doute pour pouvoir quand même atteindre le lecteur, de façon plus générale. Mais par contre, il s'intéresse énormément à l'homosexualité. Je ne sais pas si on y reviendra
non,
après.
Non, allons-y maintenant.
Le personnage du baron de Charlus est un personnage extraordinaire, extrêmement nouveau. Hein, l'homosexuel vieillissant qui n'aime que les hommes virils, qui eux n'aiment pas les hommes. Enfin, si, il y a quand même Jupien qui aime les hommes vieillissants. Il y a cette chance-là. Mais la seule possibilité pour l'homosexuel vieillissant, il dit, c'est la prostitution. C'est-à-dire, c'est de payer des hommes... Pour avoir du plaisir. Et aussi, il y a chez Proust une défense du fantasme. Et il y a des scènes vraiment dans Le Temps retrouvé qui sont d'une audace, d'une modernité totale. Quand il décrit son narrateur qui se retrouve dans cet hôtel en temps de guerre, il entend tout à coup des sortes de discours étranges sur quelqu'un. On doit trouver des chaînes pour attacher quelqu'un. Il se dit, oh, on va commettre un assassinat. Donc il part un peu comme dans le Club des Cinq, il part dans l'hôtel. C'est-à-dire, il faut qu'il aille sauver cette victime. Et tout à coup, à travers un œil de bœuf, il regarde à travers l'œil de bœuf et il voit un homme enchaîné sur un lit en train de se faire fouetter, et il reconnaît tout à coup le baron de Charlus. Et le baron de Charlus, qui donc a payé, c'est lui qui possède cet hôtel, il a payé pour se faire fouetter. Et c'est quand même une scène assez osée, mais ce qu'en dit Proust est encore plus osé. Parce qu'il a cette phrase que je cite, hein, il parle de son désir d'être enchaîné, frappé, trahissait dans sa laideur un rêve aussi poétique que chez d'autres, le désir d'aller à Venise. Alors, c'est un petit extrait d'une phrase beaucoup plus longue, je le dis tout de suite. Mais je trouve ça très beau. Je trouve que la non-condamnation que Proust fait du fantasme, qu'il différencie totalement de la réalité, du réel, est une preuve de sa tolérance qui apparaît à la recherche du temps perdu à toutes les lignes.
Oui, d'ailleurs, vous dites « jamais il ne condamne le désir ». Quelle que soit la forme que prend le désir, il a un immense respect pour cette puissance de vie.
Et il condamne la vulgarité, mais pas le désir. Et par exemple, le baron de Charlus qui se rend chez les Verdurins, ses bourgeois, uniquement parce que c'est là qu'il va réussir à trouver le jeune homme dont il est amoureux, se rend ridicule. Les Verdurins le trouvent absolument ridicule, ils ne savent pas du tout qui il est. Et finalement, à la recherche du temps perdu, ceux qui sont ridicules, ce sont les Verdurins qui ignorent qui est Charlus. Et jamais le baron de Charlus, même quand il se ridiculise, pourquoi ? Parce que le désir chez Proust n'est jamais ridicule.
Et ben c'est une transition toute trouvée pour aller vers votre deuxième lecture de Proust, Catherine Cusset, où là, c'est sa lecture plus sociétale, sa lecture des salons, des rapports de classe qui vous intéressent, son ironie, sa lucidité. On va écouter une archive de Jean-Yves Tadier qui avait écrit un livre qui s'appelait « Proust et la société ».
On peut se demander, on l'a dit, si Proust était snob. On peut penser que dans sa jeunesse, vers l'âge de 20 ans, oui, il était snob. Et ensuite, en vieillissant et en se consacrant à son œuvre, le snobisme ne figure plus parmi ses traits de caractère. Et son œuvre n'est pas non plus une œuvre snob, dans la mesure où, contrairement à un certain nombre de romans mondains de son époque, très nombreux chez des auteurs comme Paul Bourget, Marcel Prévost, Abel Hermant, etc., qui tenaient le haut du pavé, il ne représente pas du tout ces milieux comme particulièrement enviables. Au contraire, il en montre tous les défauts et tous les vices à travers des personnages comme le duc et la duchesse de Guermantes et le baron de Charlus, qui ne sont pas du tout des personnages flattés ni même enviables. Donc ces personnages, les lecteurs de Proust ne les oublient jamais. Et souvent s'y réfèrent lorsqu'ils en parlent.
La voix de Jean-Yves Tadier pour évoquer ce deuxième temps de votre lecture de Proust, Catherine Cusset. Vous en faites à 20 ans un grand roman de la société. Qu'est-ce qui vous attire après n'avoir suivi presque que le chemin de l'amour, du désir et de l'impossible dans la première lecture ?
Ben, je pense que peut-être à 20 ans, j'ai commencé un petit peu à sortir de moi, à m'apercevoir que je ne vivais pas seule avec mes tourments et qu'il y avait un monde autour de moi, une société. Et tout à coup, je lis Proust et je découvre qu'il est drôle. Et d'ailleurs, c'est pas compliqué. Vous prenez la scène la scène du baiser qui est tellement connue, hein, tout le début de la recherche. Il y a sans cesse des digressions où on voit en scène d'autres personnages. Il y a tout un monde derrière l'enfant qui attend le baiser de sa mère. On n'a pas juste la description de l'enfant et de la mère. Il y a tout le monde derrière. Il y a Swann, il y a les grands-parents, il y a les grandes-tantes qui essayent de remercier Swann pour la caisse de vin d'Asti qui l'a renvoyée. C'est un morceau d'anthologie, ce remerciement, tellement il y a une absurdité. Enfin, je ris à chaque page.
Mais vous riez, et vous riez aussi de quoi? À la fois de sa capacité à rendre, comme vous dites, tout un monde autour des scènes, Catherine Cusset, mais aussi à l'embrasser, à le penser, c'est-à-dire à en effectuer d'éventuelles critiques, à produire un regard là-dessus, à avoir une lucidité, une ironie, en fait, sur ce monde-là.
Oui. Une ironie à l'égard du monde, hein, quand il décrit par exemple le snob, le grandin, puisque Jean-Yves Tadié nous parlait du snobisme. C'est intéressant la question du snobisme chez Proust. En tout cas, le snob, le personnage du snob, c'est le grandin. Et ce snob donc refuse totalement de donner le contact de sa sœur qui est mariée à un aristocrate aux parents du narrateur qui vont se rendre à Balbec. Et la façon dont Proust met en scène le dialogue entre le père du narrateur et le grandin est extrêmement comique. Et il est comique aussi Proust parce qu'il fait parler tous ses personnages. Il est ventriloque. Il a ce pouvoir de faire parler absolument tous ses personnages. Il a une façon d'abord de décrire leur caractère et puis de les faire parler. Mais alors il y a l'ironie, mais il y a aussi l'autodérision du narrateur. Il se met en scène lui aussi. Et il ne s'épargne pas, en fait. Il n'épargne pas les autres personnages de la recherche, mais il ne s'épargne pas. Il se moque de lui-même également.
Et il se moque de quel aspect de lui-même sur cet endroit-là, plus social ou sociétal, Catherine Cusset ?
De son propre snobisme, il se moque aussi. Il se moque, mais par exemple dans la scène qu'il décrit ou dont je parle dans mon livre, qui est la scène de la dame pipi au jardin du Luxembourg, parce que donc il y a donc des choses très concrètes chez Proust comme cette dame pipi. Et donc le narrateur attend, c'est un adolescent, il attend sa grand-mère qui est allée aux toilettes et qui prend un petit peu de temps dans ses toilettes publiques. Et quand elle sort, elle ne donne pas de pourboire à la dame pipi, et le narrateur a honte d'elle. Il a honte de sa grand-mère. Et la façon dont il représente dont il se représente lui-même ayant honte d'elle, alors qu'en fait elle vient d'avoir une attaque, et tout à coup il va le découvrir, c'est vraiment il révèle tout de lui-même, il ne cache rien de lui-même. Il ose mettre en scène ce qui chez lui est condamnable, honteux. Il y a une exposition totale du narrateur, et dans son snobisme aussi, la façon dont je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'on dit beaucoup aujourd'hui sur Proust, que disait Jean-Yves Tadié, que dit d'ailleurs aussi Laure Murat dans Proust, roman familial, qui est finalement qu'on trouve chez Proust une condamnation de l'aristocratie. Un Gide avait refusé au début la recherche en disant qu'il y avait un peu trop de duchesses, mais en fait, il montre que le duc et la duchesse de Guermantes ont un cœur sec, sont ridicules et vulgaires à leur façon, tout comme les vers du Rhin. Donc en fait, personne n'est épargné. C'est vrai. C'est vrai à la recherche du temps perdu. Mais c'est vrai dans le septième volume. Je trouve que avant ça, ce que montre Proust dans la recherche, c'est le désir du narrateur
d'en faire partie,
d'être accepté dans le milieu le plus élégant, le plus chic, le plus exclusif, et c'est le milieu aristocratique. Et c'est également ce qui s'est passé pour Proust lui-même, hein, qui, à l'âge de 20 ans, a choisi d'entrer dans ce milieu-là, plutôt que de rester dans le milieu de ses anciens condisciples de Condorcet, avec qui il avait d'abord créé un journal, qui ensuite ont tous eu des positions dans le Paris littéraire. Lui, ce qui l'a intéressé, Proust, à cette époque-là, c'est quand même le Paris mondain.
Et d'ailleurs, Catherine Cusset, ça nous emmène rapidement vers le troisième aspect de votre lecture, c'est Proust en tant qu'écrivain, Proust dans son rapport à la phrase, à l'écriture, mais aussi dans son désir d'être publié. Vous racontez les lettres de refus, vous racontez la manière dont il s'offusque que ces quelques 700 pages soient absolument mal lues, et vous racontez l'aventure que c'est de se lancer dans la composition d'une phrase, de se lancer dans la composition d'une cathédrale, d'une robe ou d'un bœuf en gelée. disais, et en cela, en miroir, votre propre engagement, votre propre vie et votre propre goût pour l'écriture. On écoute un extrait de votre texte.
Ah.
Proust écrit dans Le Temps retrouvé que mettre une théorie dans un roman, c'est comme laisser l'étiquette du prix sur un vêtement qu'on offre. Ça ne se fait pas. C'est inélégant. C'est pourquoi ce qu'il accomplit, il l'énonce, dans Le Temps retrouvé, la théorie qui fonde son œuvre. Moi qui n'aime pas les romans à thèse, qui n'ai pas l'esprit abstrait, je m'y retrouve. Je comprends exactement ce dont il parle. J'en ai fait l'expérience. Ce n'est pas en évoquant le passé, toujours dans les mêmes termes, en un récit qui fige la vie de plus en plus, ni en regardant un album photo, que je retrouve la jeune fille de 23 ans qui débarqua aux États-Unis avec une grosse valise offerte par sa grand-mère, la jeune femme de 25 ans qui tomba amoureuse d'un Américain d'origine roumaine, la mère de 36 ans qui fut passionnément inquiète. Les photos ni les mots ne ressuscitent rien. Le passé ne ressurgit qu'à travers une sensation fortuite. Une image qui jaillit à l'improviste, sans que je sache pourquoi, sans que je réussisse comme Proust à isoler son origine, à la nommer. Écrire, c'est cela pour moi. Rentrer dans l'épaisseur fugitive de ce temps disparu et y descendre. Retrouver celle qu'on fut et qui n'existe plus, qu'on entrevoit comme une ombre évanescente derrière le miroir. Cette fille-là qui fut moi. Ce qu'on désire atteindre, ce n'est pas juste soi. C'est le temps, c'est le vivant, c'est la sensation disparue. L'impression est un mot essentiel. Ce qui s'est imprimé en nous et qui ressurgit par la mémoire involontaire est propre à chacun. C'est ce qu'il y a de plus singulier, de plus vrai, de moins influencé par les autres et par l'époque. Et c'est là, nous dit Proust, que se trouve le seul livre qui compte, unique à chacun, ce qu'il appelle le livre intérieur. Ce livre au caractère non tracé par nous est notre seul livre. Ce livre, pour qu'il soit vrai, il faut que son auteur parte à la recherche de ce qui s'est imprimé en lui. Seule l'impression est un critérium de vérité. L'impression est pour l'écrivain ce qu'est l'expérimentation pour le savant, avec cette différence que chez le savant, l'intelligence précède et chez l'écrivain, vient après.
Un extrait de votre livre « Ma vie » avec Marcel Proust, Catherine Cusset. Toute la fin de ce livre-là est consacrée à envisager À la recherche du temps perdu, ou plutôt votre lecture de À la recherche du temps perdu, comme la lecture d'un roman de l'écriture. D'un roman de l'écriture et d'un roman de l'écrivain parlant de l'écriture, Catherine Cusset.
Oui, d'abord j'avais voulu revenir un peu en arrière sur cette question du snobisme, parce que ce que j'admire chez Proust, c'est son courage. C'est un courage extraordinaire que justement de se mettre en scène lui-même comme son narrateur, évidemment, comme personnage snob. Et c'est ça, et c'est pour cette raison-là qu'il a risqué la non-publication de son œuvre. Parce qu'elle n'a pas du tout été comprise quand il a donné à lire les deux premiers volumes. Et vous savez, il y a cette réaction très célèbre de Ohlendorf, un des grands éditeurs de l'époque, qui dit « je ne comprends vraiment pas pourquoi quelqu'un qui passe 30 pages à raconter
comment il se retourne
dans son lit. Enfin, vraiment, ça n'a aucun intérêt. Et Proust a cette réaction, je pense, indignée. Je pense qu'il a eu quand même une vraie douleur à ce moment-là, hein, de ne pas être compris. Et il dit 700 pages, ou bien de l'expérience morale, de la pensée et de la douleur est non pas diluée, mais concentrée. Et c'est sur ce ton-là qu'il l'écarte. Et je trouve qu'il y a vraiment un courage chez lui de dire tout simplement l'être humain dans sa vérité humaine. C'est pas juste un roman sur l'écriture, la recherche. C'est vraiment un roman sur l'être humain dans sa totalité. Dans sa totalité, donc aussi dans son désir de superficialité, dans sa paresse, dans sa procrastination, dans le sentiment qu'il est nul. Proust raconte tout ça.
dans son rapport à sa mère qui s'énerve contre lui, à sa grand-mère, etc. Et puis finalement, évidemment, on arrive au roman de l'écriture. Voilà. Et on arrive à la certitude, cette certitude qu'il a cherchée tout au long de sa vie et de la recherche, qui est la certitude qu'il existe une réalité ailleurs, hein, qui est vraiment, voilà, qui est par l'art, qu'on ne trouve que par l'art.
Et quoi alors, du coup, Catherine Cussel, lorsque vous faites cette lecture-là rendue à l'âge de 50 ans, cela souligne cette propre croyance chez vous? Cela vient la renforcer?
Alors déjà, bon, donc je l'ai relu à 50 ans parce que j'écrivais mon roman L'autre qu'on adorait et que mon personnage, donc qui est mon ami que j'appelle Thomas dans mon livre, qui s'est suicidé à 39 ans, c'était un écrivain, un artiste, un écrivain en puissance, c'est une certitude, qui adorait Proust. Hein, il avait fait sa thèse sur Proust, il connaissait la recherche, il avait lu je ne sais pas combien de fois. Et lui, eh bien, il n'a jamais pu écrire. Et j'ai relu toute la recherche en imaginant le regard de mon ami et je me suis dit que vraiment Proust avait dû être un soutien pour lui, justement parce qu'il parle tellement du doute et de sa difficulté, de la procrastination et de la paresse, et aussi de l'art, enfin de la certitude. Et moi, c'est également ça que j'ai trouvé chez Proust. Vous avez lu ce passage sur l'impression. En fait, quelque part, vous savez, aujourd'hui, écrire, on se pose tout le temps la question, est-ce qu'on est légitime ? Je trouve qu'aujourd'hui, il y a un intérêt de plus en plus grand. J'ai parfois l'impression de ne pas avoir la bonne origine pour écrire. J'ai parfois l'impression qu'il faut avoir connu la souffrance d'une autre façon que je ne l'ai connue, qu'il faut être transfuge, qu'il faut venir d'un pays
excolorisé. C'est un peu réducteur de dire ça, Catherine Cussel. C'est quand même drôlement réducteur de dire que l'intérêt ne serait porté que sur des livres écrits par des transfuges de classe.
Moi, je me pose tout le temps la question.
C'est une mauvaise question.
Vrai, parce que j'ai un sentiment de privilège. Hein, c'est
mais vos naturel. Textes sont lus.
Oui, mais Proust m'aide pour ça à revenir à moi-même et à me rappeler qu'il faut pas céder à l'air du temps, qu'il faut pas chercher des sujets à la mode, que c'est vraiment vraiment pas ça qu'il faut faire, qu'il faut se retirer et essayer d'aller écouter en soi ce qu'il appelle l'impression que fait en vous une musique, une chanson. Essayer de retrouver, et c'est quand même extrêmement difficile, votre rapport singulier au monde.
Oui.
Votre rapport propre. Il dit que c'est grâce à l'art qu'on apprend à finalement connaître le rapport singulier de l'autre monde, donc l'autre.
Vous en tirez d'ailleurs les 10 commandements parmi lesquels, en effet, il est nécessaire de se retirer, il est nécessaire de ne pas perdre trop de temps à bavarder avec les familles et les amis, Catherine Cussel, et l'idée vraiment qu'il n'y a d'écriture que par le chemin le plus singulier. Vous voulez nous dire un ou deux commandements avant qu'on entende la question de notre auditrice ?
Donc, écris la façon singulière dont apparaît le monde à toi et pas aux autres. Retire-toi, reste seul et ne perds pas ton temps à parler avec des amis. Ne te soucie pas d'inventer, il te suffit de sentir. Voilà un précepte extraordinaire. Et d'ailleurs, vous savez, moi j'ai une définition de l'imagination qui n'est pas l'invention. Pour moi, imaginer, c'est comme voir dans une boule de verre. C'est réussir à retrouver soit le passé, à partir d'une sensation fortuite, soit réussir à se déplacer dans la tête de l'autre, essayer d'imaginer ce que peut penser et vivre l'autre. Donc ça n'est pas non plus inventé, c'est beaucoup plus du côté de l'intuition, de la déduction.
Ou de l'impression et de l'importance
et de l'impression.
Des détails dont vous parlez fait. Aussi beaucoup. On écoute Noémie, qui vous a lu cette fois, puis qui vous avait lu précédemment.
Bonjour le Book Club et bonjour Catherine Cussel. Je suis très contente de pouvoir vous poser une question aujourd'hui puisque j'ai beaucoup aimé votre dernier livre, Ma vie avec Marcel Proust. Vous soulignez dans le premier chapitre que Marcel Proust écrit des romans d'amour, qu'à chaque page on trouve de l'amour et de l'amitié chez Proust. Et paradoxalement, il le fait avec ironie, avec humour, une ironie qui peut être assez cruelle envers lui-même ou envers ses personnages. Ma question est donc la suivante. Si le roman se trouve déjà en chaque auteur, est-ce qu'il faut aimer ces personnages avant toute chose ? Et quels sont les sentiments qu'il faut avoir envers ces personnages et que vous aviez, vous, envers vos personnages ? Je vous remercie pour votre réponse.
Merci beaucoup Noémie pour cette question.
Vraiment, merci Noémie. Donc je ne dicte rien. Je pense qu'il y a vraiment une seule règle et tenter d'être vrai, mais envers soi-même et donc forcément en ses personnages, ne pas avoir peur de dire et d'écrire. Après, on a la liberté de publier, mais pour l'écriture même, il faut n'avoir aucune censure.
Et pas peur pour soi-même ou pas peur pour ses personnages? Parce que Noémie, elle vous interroge sur le lien particulier au personnage.
Pour les deux, je pense qu'il faut, être le plus vrai possible et creuser en soi le négatif aussi. Voilà.
Qu'est-ce que vous appelez le plus vrai, Catherine Cusset?
Ne pas hésiter à le plus vrai, qu'est-ce que j'appelle, oh là là, mais là il faut qu'on reparte pour une autre émission.
Mince,
excusez-moi,
on n'a pas du tout le temps.
Marie-Riche, qu'est-ce que c'est être vrai? C'est ne pas mentir
en écriture.
Tout exposer, tout creuser dans le détail, ne pas se protéger, voilà ce que ça veut dire pour moi être vrai, à protéger son image,
oui. ni ses personnages,
absolument. Mais en même temps, ça peut vouloir dire aussi rendre grâce et rendre justice. Et ça, il faut se le rappeler, c'est pas toujours facile, la gratitude, de rendre grâce et d'être capable de dire le positif. Il faut en être capable aussi. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à en être capable.
Ne pas se protéger, être plein de gratitude. On arrête là-dessus.
Parfait.
Ok, le book club continue.
France Culture, le book club, Marie Richeux.
Ah, c'est pas facile de répondre vite, de manière concise. Ouais, franchement, de si grandes questions. Enfin, je sais, c'est trop dur ce qu'on demande. 15h51, on
c'est
est mardi.
En une phrase.
On retrouve Nicole Vulser. Bonjour Nicole.
Bonjour Marie.
Vous éclairez pour nous des aspects économiques du monde des livres aujourd'hui. Vous nous parlez de l'engouement pour la poésie, minuscule secteur, mais grande forme.
Il est des moments réjouissants. La Journée mondiale de la poésie a lieu chaque année le 21 mars, au moment précis où se tient également le festival Le Printemps des Poètes. Une occasion rêvée donc de prendre le pouls de ce micro-secteur de l'édition. J'ai donc appelé Archana Vantaraja, la consultante livre chez Nielsen IQJFK, qui m'a expliqué que le chiffre d'affaires de la poésie avait augmenté de 17% en 2024 pour franchir le cap des 20 millions d'euros l'an dernier. Un exploit dans ce marché global de l'édition totalement atone. Au total, 1566 nouveautés en poésie ont été publiées en 2024 et plus de 1,6 million d'ouvrages ont été vendus. C'est une forte hausse louable dans un monde bien sombre, mais les chiffres restent quand même très modestes. Depuis le Covid, la moyenne du nombre de chaque exemplaire vendu a augmenté significativement et oscille entre 1500 et 2000 exemplaires. Contrairement à la majorité des autres livres, la poésie se vend sur du long terme, parfois du très long terme. C'est ainsi qu'Alcool d'Apollinaire s'est écoulé à plus d'1,5 million d'exemplaires depuis 1966 chez Gallimard. Par exemple, j'en profite pour vous dire que ce petit marché de l'édition est précisément dominé par Gallimard, qui en reste le principal acteur, toutes collections confondues. C'est une histoire de famille. Gaston Gallimard, le grand-père d'Antoine, aujourd'hui à la tête de ce groupe, plaçait la poésie plus haut que tout. Viennent ensuite Segers, qui appartient à Editis, ainsi que les éditions Doucet, qui toutes deux viennent de publier une superbe anthologie de poésie à l'occasion du Printemps des Poètes. On trouve aussi plus d'une centaine de maisons plus petites et très dynamiques, comme Le Castor Astral, Chaîne Éditeur ou encore Rue du Monde.
Et alors comment s'explique ce nouvel attrait pour la poésie, Nicole ?
Selon Bruno Doucet, qui dirige les éditions du même nom, je cite, « La poésie est présente dans les situations de crise. Cet engouement est sans doute lié à l'aggravation du monde à laquelle nous assistons. » Il explique aussi qu'après le retour du conte et de l'oralité au début des années 2000, puis l'engouement absolu pour la philosophie au tournant des années 2010, aujourd'hui, la poésie fait la synthèse des deux. Et la poésie ouvre des horizons extraordinaires. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire ce qu'Annie Lebrun en pensait. Nous avons oublié que, n'étant tenue par rien, la poésie possède depuis toujours le dangereux privilège d'aller vers ce qui échappe aux autres façons de penser.
Ça me permet d'encourager nos auditeurs et auditrices à réécouter la bibliothèque d'Annie Lebrun. Est-ce que les libraires mettent mieux en valeur la poésie aujourd'hui, Nicole? Ça voudrait dire, sous-entendu, que ça n'a pas toujours été le cas.
Absolument. Bruno Doucet me rappelait il y a 15 ans qu'il fallait se mettre à quatre pattes pour accéder aux minuscules rayons de poésie dans la plupart des librairies. Beaucoup d'entre elles ont changé de stratégie, tout simplement parce que ces ouvrages sont davantage demandés. Alors on trouve désormais des recueils de poésie en vitrine, sur des tables ou placés dans des rayons enfin accessibles. Cela ne concerne plus seulement la poignée de libraires qui ont toujours défendu mordicus la poésie, comme Tchan ou Delamain à Paris, Ombre Blanche à Toulouse, L'œil cacodilate à Lyon, du nom d'un tableau de Francis Picabia, ou encore La Flibuste à Fontenay-sous-Bois. Les autres s'y mettent aussi, aiguillonnés par le buzz fait autour du Printemps des Poètes jusqu'à la fin mars, quitte à proposer des lectures de poésie et des signatures.
Et alors, puisqu'on parle économie, est-ce qu'il y a des poètes ou des poétesses qui se
vendent particulièrement bien.
Les grands classiques restent une valeur sûre. Arthur Rimbaud, dont vous avez parlé hier, Marie, Charles Baudelaire, Louis Aragon, Paul Éluard, Jack Kerouac, Pablo Neruda se vendent toujours très bien. Et le jackpot se profile dès qu'un auteur intègre le programme du baccalauréat. Une bénédiction qui est arrivée à l'autrice québécoise Hélène Dorion pour Mes forêts. Résultat, elle en a vendu plus de 135 000 exemplaires en un an et demi. En 2024, ce recueil est d'ailleurs arrivé en seconde position des ventes de poésie, juste après Le Murmure de Christian Bobin et devant Le Ciel ouvert d'un autre romancier connu, Nicolas Mathieu. Précisément parce que l'hybridation des genres littéraires fonctionne bien. Beaucoup de romanciers qui avaient gardé des poèmes dans leur tiroir n'hésitent plus à les publier. Et les succès sont au rendez-vous, comme l'illustre par exemple Les Ronces de Cécile Coulon, édité par le Castor Astral, et déjà vendu à plus de 60 000 exemplaires en quelques années. Les éditions Séguers ont fait appel quant à elles à des chanteurs comme Arthur Teboul, l'interprète et parolier de Feu Chatterton. Son recueil Le Déversoir s'est écoulé à plus de 30 000 exemplaires. De quoi donner raison sans hésiter à Jean-Pierre Siméon, poète lui-même et directeur de la collection Poésie Gallimard, qui m'a dit « Ceux qui disent que la poésie, ça ne se vend pas, ça me fait marrer.
» Merci beaucoup Nicole, on peut vous réécouter Économie du livre sur franceculture.fr. Je rajoute deux choses, si vous voulez bien. Un livre de poésie que j'ai vraiment adoré ces dernières années, ça s'appelle « Ça joue » d'Antoine Hummel et c'est paru aux éditions de La Tempête. Et une librairie qui est spécialisée dans la poésie, c'est à Paris, je suis désolée, mais c'est vraiment magnifique, c'est une librairie qui s'appelle EXP. À cette heure-ci, on joue à un jeu, Catherine Cusset. On vous a entendu, franchement, assez. Vous êtes prompte à tout ce qui serait ludique. Ça s'entend dans votre voix. Non ? Vous faites des grands yeux. Vous avez l'air joueuse.
C'est vrai.
Ouais, vous avez l'air joueuse. Bon, bref, on joue à un jeu. Ça s'appelle le grand jeu des pages musicales. On cherche de la musique dans les textes. Et il y a quelques références musicales dans le vôtre, rares, mais on en a relevé une émouvante. Proust m'a permis de comprendre que mon ami ne s'était pas tué seulement parce qu'il était contrôlé par cet ennemi invisible qu'est la maladie, parce qu'il n'avait plus d'argent et qu'il avait deviné une semaine avant de se tuer qu'il allait perdre son poste. Par la littérature et la musique, il avait accès à une réalité plus vaste, à l'essence des choses que, contrairement à Proust, il n'arrivait pas à mettre en mots. Quand il écoutait Bach, Thelonious Monk ou Nina Simone, son être se dilatait à remplir les capacités immenses du génie. Sa réalité était celle d'un ineffable qu'il percevait, cet ineffable qui différencie qualitativement ce que chacun a senti et qu'il est obligé de laisser au seuil des phrases où il ne peut communiquer avec autrui qu'en se limitant à des points extérieurs communs à tous et sans intérêt. L'art le fait apparaître, extériorisant dans les couleurs du spectre la composition intime de ces mondes que nous appelons les individus et que sans l'art, nous ne connaîtrions jamais. When your God has got his hat and made himself hard to find, it doesn't mean you should go crazy. It could be that way sometime. Find yourself another love who will treat you good and kind. Return the love he gives to you. It also be that way sometime. J'ai une croyance simple qui est qu'un book club qui se termine par Nina Simone, c'est bien.
Ah oui.
Voilà. Merci beaucoup, Catherine Cusset, d'avoir été avec nous. Ma vie avec Marcel Proust à Paris aux éditions Gallimard. Au son aujourd'hui, c'était Grégory Wallon à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du book club qui m'aide à penser et préparer ces émissions, particulièrement à Jeanne Aléos aujourd'hui. Rendez-vous sur le compte Instagram du book club pour poursuivre la conversation. À demain.